Bonjour tout le monde, spectaculaire commence, enfin, mercredi 18 octobre 2023, 14h et combien, 4 minutes, on a un petit peu de retard, émission 309, je suis content comme tout et je suis un peu affolé, j'ai un peu perdu ma voix, je suis heureux comme tout. Francis est de retour pour la chronique 30, 31, 32, 29, je sais plus laquelle c'est, et surtout nous recevons Fanny Vella, illustratrice lyonnaise, artiste peut-être qu'on peut qualifier d'engagée car elle est contre les violences physiques, psychologiques, de d'autres ordres encore, et tout de même elle est pour aussi, pour le respect des autres, le respect aussi de soi-même. Elle l'a beaucoup montré dans ses différentes publications. La dernière est absolument géniale. Coquelicot, sortie fin août, début septembre. Une prochaine est à venir, Le Seuil, en février 2024. Elle va donc nous en parler en dressant tout d'abord un portrait d'elle-même et puis ensuite elle nous parlera de son œuvre, de ses œuvres et ce sera très bien. Je la remercie car la programmation musicale, c'est elle qui l'a assurée. Un premier titre pour commencer, c'est super, c'est génial, du Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. Alors oui, au revoir, mais en fait nous c'est plutôt bonjour, donc 14h et 5, même pas 5 minutes. Nous allons faire l'émission jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison de le faire sur internet, ça peut être très bien, radiocanu.org. Et si c'est à Lyon, c'est aussi une très bonne chose, c'est sur le 102.2 de la bande FM. On sera allé jusqu'à la fin du morceau. Merci beaucoup Fanny Vella pour cette programmation musicale de qualité. Et puis pour, peut-être pour commencer, bonjour Fanny.
Bonjour Christophe, merci.
Ah mince, il y a un cheveu. Refaites-nous.
Bonjour Christophe.
Non, il y a un truc qui n'est pas bon. Ah ouais, il est fort, Francis. Est-ce que là, ça va aller ?
Bonjour, bonjour.
Ah ouais, là, c'est fantastique.
C'est beaucoup plus agréable, effectivement.
Là, c'est formidable.
Je colle ma bouche.
Il est précieux comme tout. Bonjour, Francis.
Salut, Christophe.
Rebienvenue à toi.
Merci.
14h50, chronique numéro
897.
On a manqué tellement, c'est pas la vérité. 30e, c'est ça, ou 31e, je sais pas.
33, je crois.
Ah, tant que ça. Oh, d'accord.
Oui, l'âge du Christ, quand il
est mort. Oui, mais t'as pas le droit de compter quand t'es pas venu. Mais bon, on s'arrangera. Fanny, première question d'émission, une question toute simple. Hein, c'est donc qui êtes-vous, le portrait un petit peu de l'invité. Vous êtes une illustratrice lyonnaise. Comment est-ce que vous pourriez nous dire quel fait de... Alors, peut-être un peu délicat, quel fait de votre enfance ou à défaut de votre parcours scolaire, ou qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu cet artiste dont je vais retrouver le nom de cette...
Fanny Vella, c'est mon nom.
Non, bien sûr. Et moi, je parlais de celle avec le postpartum. Postpartum, c'était Réjeanne Hérault. Mais c'est elle qui fait également, oui, dans les remerciements. Réjeanne Hérault, elle vous le qualifie d'artiste sensible et talentueuse. Donc, comment êtes-vous devenue cette artiste sensible et talentueuse ?
Ah, sensible, je pense que on est comme ça, N-A-I-T. Mais talentueuse, oh là là, je sais pas. En tout cas, artiste, je sais comment c'est venu. J'ai un attrait pour le dessin depuis très très longtemps. Mais j'ai surtout...
Quand donc, 3 ans, 4 ans, 2 ans,
est-ce que c'est le... depuis toute petite, à chaque fois, là, quand on nous demande comment vous êtes mis à dessiner, en fait, je dis toujours, nous, on a commencé à dessiner en même temps que tout le monde. Et puis, en fait, on s'est pas arrêté, contrairement à beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas devenus artistes. Mais moi, j'avais surtout un attrait pour les livres et pour les histoires. Et finalement, le dessin, c'était pour simplifier les choses, parce que je me disais qu'un dessin pouvait faire passer plus de choses que parfois des mots. En tout cas, c'est un médium qui m'intéressait, moi, en tant que lectrice. Et donc, pour raconter mes histoires, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je m'entraîne à dessiner un peu mieux pour que ça plaise un peu à l'œil. Et donc, je me suis exercée jusqu'à ce qu'un jour, des gens me repèrent et se disent, je vois un talent en elle. Et voilà.
Parce que vous avez une autre vie. Avant de devenir une illustratrice, comment vous qualifiez, je crois, le bouchon déchaîné, c'est vous étiez des études en communication visuelle. Et puis, vous avez même débuté une carrière dans le social. Mm-hmm. Est-ce que vous souhaitez revenir dessus ou pas forcément?
Si, en plus c'est intéressant parce que je trouve que tout conduit à là où on en arrive, et en tout cas c'est vraiment mon cas, c'est que moi j'étais dans la communication visuelle parce que je n'avais pas les moyens de me payer une école de dessin, et du coup ce qui se rapprochait le plus du dessin c'était le graphisme.
Pas des mille cols donc?
Et pas d'Émile Cole, non.
Vous êtes lyonnaise, un peu?
Oui, totalement. Ouais, dans la banlieue lyonnaise, à Miry, pour les personnes qui connaissent le mieux les environs. Et donc, pas d'Émile Cole pour moi, mon plus grand désarroi. Mais par contre, une école de graphisme dans laquelle j'ai appris à créer des axes de recherche. Et donc, du coup, à partir d'une idée, de la signifier à travers une image. Donc, parfois la photographie, mais aussi le dessin. Et ça m'a beaucoup plu. Mais par contre, le milieu me plaisait pas parce que ça me semblait manquer de sens, en tout cas moi. Dans mes études, on faisait travailler pour Amnesty International, et quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je travaillais pour Heineken, et du coup d'un seul coup j'avais perdu un petit peu le sens de ce qui me plaisait. Donc dans le social après, parce que j'aime ça en fait, parce que j'aime m'occuper d'autres personnes, et que du coup j'avais besoin de trouver du sens, le sens que j'avais pas avec Heineken par exemple. Et en rentrant chez moi, quand je m'étais occupée des enfants porteurs de handicap qui étaient dans ce parcours professionnel, j'étais trop bien. Après je suis devenue maman et je me suis remise au dessin, et là je me suis dit, tiens, je retrouve un petit peu ce que j'avais dans ma carrière dans le graphisme, mais en même temps, si je veux continuer là-dedans, il faut que je trouve du sens pour garder ce que j'avais dans mon métier de travailleuse sociale. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers ces thématiques-là qui font sens pour moi, en tout cas.
Qui sont lesquelles, ces thématiques?
Elles sont évoquées, les éditions Le Duc font très bien les choses. Est-ce que je peux le lire, ou alors si vous avez les mots éventuellement, Fanny Vella, pourquoi pas, mais les mots que j'ai ici, c'est... Elle en profite pour sensibiliser sa communauté avec humour et bienveillance aux thématiques qui lui tiennent à cœur, violences éducatives et conjugales, sexisme ordinaire, et ainsi elle contribue à faire bouger les lignes. Non, je crois que c'est pas assez complet ça. Fanny, il faut peut-être davantage de...
Je fais bouger les lignes, j'adore cette formule.
Pour un artiste, pour une illustratrice, c'est formidable.
J'adore.
Ça.
C'est parti vraiment d'abord de dénoncer un peu les violences qui ont lieu au sein du foyer, donc qui sont les violences intrafamiliales, donc ou éducatives ou conjugales. Et en fait, quand on parle de ça, on tire une sorte de petit fil rouge qui nous ramène sur, en fait, toutes les notions, notamment de consentement, qu'on n'apprend pas dès l'enfance. Et puis, en fait, les notions de stéréotypes de genre. Et donc, c'est difficile parfois de résumer les thématiques qui sont abordées, mais en fait, elles sont toutes couplées sous ce truc du respect. Et c'est vrai qu'en fait, c'était trop bien dit au début de l'émission, en fait, finalement, le respect qu'on a envers les autres et envers soi-même passe par une sorte de déflagration dans notre tête pour déconstruire un petit peu tout ce qu'on a traversé pendant l'éducation et ce que la société nous met sous les pas, quoi.
Et est-ce que le fait d'avoir travaillé dans le social, comme vous le disiez au début, ça, j'imagine que ça a nourri un peu vos créations ?
Ça a nourri mes créations, oui, bien sûr. Le dessin a toujours été là en plus parce que je faisais une sorte d'art-thérapie avec les personnes que j'accompagnais, parce que le dessin, la peinture, c'est quelque chose de magique pour faire naître, alors d'une façon autour de la motricité pour les personnes qui en manquent, mais aussi en fait juste pour faire passer des émotions chez des enfants, par exemple les enfants porteurs de... Enfin, les enfants autistes notamment, parfois ont du mal à s'exprimer et le dessin était un super vecteur pour pouvoir échanger avec eux. Donc il y avait ça, mais c'était surtout, en fait, une des premières petites BD que j'ai fait sur les réseaux sociaux, c'était pour aider une maman d'un enfant que j'accompagnais qui ne trouvait pas d'institut pour le placer. Il pouvait plus être inclus dans un parcours scolaire parce qu'il avait dépassé l'âge. Et en fait, il n'était pris nulle part. Et du coup, j'avais envie de pouvoir relayer, grâce à la magie des réseaux, ce que c'est que le parcours d'une mère qui est obligée d'abandonner son travail pour pouvoir s'occuper de son fils, ce que c'est que d'être une fratrie, en fait, autour de cet enfant porteur de handicap. Et donc, ce besoin de faire sens et l'utilité que j'ai pu mettre, le crayon que j'ai pu mettre au profit de ces combats-là, c'est finalement, effectivement, ce métier-là m'a conduit vers ces thématiques-là, et le dessin a été un super moteur, en fait, pour pouvoir faire passer ces messages-là comme ça.
Et ça a marché, du coup, les réseaux?
Il a trouvé un institut, je ne sais pas si j'y suis pour grand-chose, la maman surtout, mais en tout cas, ça a pu sensibiliser des personnes. En tout cas, c'est vrai que les personnes qui croisaient la route de ce petit garçon qui est un adulte aujourd'hui, parfois ne se rendaient pas compte. Cette maman qui était tout le temps souriante et qui ne se plaignait jamais de rien, ils ne se rendaient pas compte, et du coup, ça leur a permis de poser un autre regard sur cette maman, mais aussi globalement tous les parents qui traversent ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que grâce aux histoires, donc dans les BD ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait on va parler d'un cas, on va penser qu'il est unique, et en fait grâce aux lecteurs et aux commentaires, on va se rendre compte que plein de personnes sont concernées, ou que quand ils ne sont pas concernés, ça leur permet de poser un regard différent sur les personnes qui rencontrent cette situation-là. Et moi, je trouve ça magique parce que ça nous permet à tous de devenir plus bienveillants les uns envers les autres et être moins durs, parce que quand on croise une situation comme ça, au hasard d'une conversation ou d'une rue, on n'a pas tout le contexte qui englobe cette phrase qu'on va entendre ou ce geste qu'on va voir. Et je trouve que c'est la force de ces histoires, c'est de mettre du contexte autour de ces situations.
Comment est-ce qu'on
en regarde ? On en reste sans voix. On en reste
qu'est-ce
sans
qu'on
voix.
Peut dire moi, je suis seulement voilà pour la conduite de l'émission. Est-ce qu'on aborde peut-être qu'on pourrait faire une pause musicale pour se remettre de ce qui a été dit. Et puis ensuite, je vous propose, auditeur auditrice, je vous propose également Fanny de faire un parcours de vos différentes œuvres. Et puis ensuite, on abordera. Il y a une œuvre à venir en février prochain. Le seuil. Je crois que c'est pas encore la somme, mais ça reprend encore des différentes thématiques, différentes choses auxquelles vous tenez. Mathilda, on s'est dit de Harry Styles ou alors le tunnel d'Arcade Fire.
Un petit tunnel, ça va bien au milieu d'émission, un tunnel.
Un petit tunnel, et puis donc nous poursuivons. C'est bien, généralement ce temps de portrait est peut-être un peu plus long, mais je crois que vous avez été fort complète, vous avez tout dit. Peut-être pour votre biographie, un deuxième enfant est arrivé. Je crois que vous avez tout de même parlé d'une fille, c'est ça, il me semble. Vous avez annoncé, vous avez rappelé donc quand votre fille est arrivée. Enfin, voilà, vous avez retrouvé le chemin du dessin. Et un garçon est arrivé. Et puis, je crois qu'on a fait le tour de la biographie.
Et il n'y aura pas d'autres enfants.
Donc, nous écoutons le titre de... Nous avons dit que c'était Mathilda de Harry Styles. La programmation musicale...
Non, pas du tout. On a dit Arcade Fire.
On a dit Arcade Fire, exactement. Parce que moi, je reste sur une fille, une figure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai n'importe quoi. C'est très bien. Merci Francis pour être à ce point rigoureux et précis. Nous continuons dans l'émission 309 avec Fanny Vella. Vous le constatez, auditeur auditrice, on est vraiment en fort bonne compagnie. Arcade Fire. Thank you.
j'entends bien que vous vivez mal le fait que vos collègues vous bousculent devant la machine à café tous les matins. Mais bon, ce sont des jeux d'adultes, c'est pas bien méchant. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Allez, ça va passer. Il faut s'endurcir un peu, mon petit père. C'est rigolo de lire ça un peu. Voilà, ça résume un peu vos écrits, vos...
Extrait, Francis, resituons les choses. Un extrait. Après avoir entendu le Tunnels, Neighborhood Number One, Tunnels de Arcade Fire. Francis, tu commentes un instant la bande dessinée au beau titre.
Et si on changeait d'angle ?
Une publication de Fanny Vella, notre invitée, et donc là tout à fait un exemple de ce changement d'angle, parce que il est bien question à chaque fois, ce sont des adultes qui sont représentés. Donc Bruno, il dérangeait la machine à café, et en fait Bruno, Fanny, comment poursuivre ? C'est un petit garçon, enfin c'est.
Bah c'est une scène qui dénonce clairement le harcèlement scolaire, mais c'est vrai que moi j'aime bien transposer. Alors du coup, bah là on transpose les situations qui sont habituellement vécues par les enfants dans des situations entre adultes, mais transposer des situations qui sont vécues entre un homme et une femme, entre deux hommes. En fait, toutes ces mises en scène, je trouve qu'elles viennent un petit peu perturber les choses. Il y a quelque chose qui se passe, mais même d'une façon chimique dans le cerveau. Le cerveau, il essaie de recréer quelque chose, un ordre dans ce qui se passe. Et en fait, ça nous dérange. Ça nous dérange. Et moi, ce que j'ai envie d'interroger, c'est pourquoi ça nous dérange quand c'est deux adultes et pourquoi ça nous dérange moins quand c'est avec un enfant. Et je sais que ce livre, il fait pas mal parler parce qu'on croit que c'est un livre plein d'injonctions, un livre qui va faire culpabiliser les parents, alors qu'en fait, c'est un livre qui vient parler aussi à l'enfant en nous, genre comment on a été traité, nous, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on aurait voulu entendre comme forme d'empathie de la part des adultes qui nous entouraient, et aussi pour essayer de réajuster nos rapports avec les enfants, mais aussi avec les adultes, parce que moi, j'en connais plein des adultes qui savent pas encore poser leurs limites. Et du coup, ça vient juste proposer, en fait, pour atteindre le même résultat avec un enfant, en passant par d'autres façons de faire, avec des façons plus délicates, avec plus d'empathie, et en prenant en compte les sentiments et les besoins des enfants aussi.
Une publication au début, c'était, je suppose, sur réseau, c'est ça ? C'était sur.
C'était pas du tout voué à finir dans un livre. En fait, c'était vraiment une série de dessins. Moi, j'étais pas mal sur les réseaux. À la base, je faisais pas du tout des livres. Je faisais des petites scénettes sur les réseaux pour faire marrer les gens.
Facebook, Instagram, c'est ça ?
C'est ça.
Les deux comptes sont encore actifs ?
Les deux sont encore actifs. Facebook, un petit peu moins alimenté, mais. Mais du coup.
Fanny Vella, VE2LA, on vous retrouve comme ça.
Ouais,
FA2NY.
Rien de plus, rien de moins. Et du coup, j'alimente ça avec ces scènes, et c'est vrai qu'elles ont trouvé un public d'une façon assez ça a été très vite relayé par des sites comme Topito, Positiver, et en fait ça m'a un peu dépassé, ça a quitté un peu mes mains, et moi j'avais besoin de les replacer dans un contexte. On parle toujours de contexte parce que c'est important, avec une préface, un édito, une personne, une ponte de l'éducation et des neurosciences comme Catherine Guéguin qui a préfacé ce livre, et puis du coup pour pouvoir aussi proposer des alternatives. C'est ce qui manque parfois sur les réseaux, c'est que les gens partagent un dessin et ça fait perdre la légende que nous on a pris soin d'accompagner pour expliquer justement tout ce qui entoure la réflexion autour de ce dessin, et donc placer ça dans un livre, je trouvais ça moins dangereux.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a une page, c'est vraiment divisé en deux, où il y a une page un peu explicative,
c'est
je sais
ça.
Pas comment vous pourriez
une
dire
suggestion,
une
en
suggestion,
fait.
Et puis ensuite le dialogue avec le dessin.
C'est ça, la suggestion elle est venue après, parce qu'on me disait super, je vois ce que tu dénonces, mais du coup qu'est-ce qu'on fait ? Et je me disais, j'ai pas toutes les clés, mais peut-être que je peux au moins vous proposer, c'est ce que je dis, c'est un livre de recettes. Dans les livres de recettes, les photos, elles sont parfaites. Après, nous, on n'arrive pas à les reproduire à l'identique chez nous parce qu'on n'a pas tous les bons ustensiles. Et en éducation, c'est pareil. On n'a pas tous. On a des gros boulets parfois accrochés aux pieds, de manque de patience, de colère, de choses qu'on n'a pas gérées quand on était plus jeune ou qu'on n'a pas appris à faire, exprimer ses émotions aussi. Et donc, c'est un livre de recettes parfaites. Après, on essaie de faire la recette avec les outils qu'on a, avec, comme je dis, la dose de patience qu'on a et puis les journées qu'on a passées aussi. Il ne faut pas attendre de soi d'être parfait. De refaire la photo.
C'est ça, c'est pas culpabiliser les lecteurs et les lectrices, quoi.
Non, c'est ça. Après, c'est sûr que c'est important de le rappeler toujours dans les écrits autour, parce que c'est un sujet qui est tellement propice à la culpabilisation, l'éducation. Mais c'était tellement pas le rôle de cette BD. Et puis moi, j'avais vraiment à cœur à parler aux enfants. Et d'ailleurs, c'est un livre que beaucoup d'enfants lisent, parce que ça leur était pas destiné directement, mais ils peuvent le lire parce que c'est rigolo. Et qui font lire à leurs parents en disant « Regarde maman, c'est comme toi tu dis des fois. » Et c'est drôle parce que ça remet en question d'une façon assez familial et puis fun en fait au final.
On parle de livres, moi j'ai presque le sentiment que c'est plutôt ce qu'on pourrait nommer un manuel, parce qu'il y a vraiment différentes parties. Il y a donc, tu l'as indiqué Francis, ces dessins qui sont donc accompagnés de suggestions, vous dites, mais il y a aussi des textes qui parfois sont un peu développés, sont un peu longs, et c'est très bien. Et il y a aussi même une sorte de dernière partie qui est une narration carrément, toute une histoire avec avec d'autres voilà, tu y es pile, oui, Francis, avec d'autres éléments. Il est question donc toujours à travers des adultes, mais là en plus de vos thématiques habituelles s'ajoute aussi celle du sexisme certes, mais également le racisme et un racisme aussi qui est peut-être moins enfin, c'est toujours compliqué, quoi. Le racisme asiatique. Il est question de asiatiquetage.
C'est vrai.
Les personnes asiatiquetées qui sont donc, qui sont. Enfin, c'est. Il faut le lire. Écoutez, auditeur, auditrice, je ne sais que vous dire d'autre que ces livres sont tout à fait disponibles. je passais encore tout à l'heure dans une grande ancienne sur Bellecour, la Fnac, et donc, enfin voilà, et on peut trouver encore tous ces différents ouvrages, et ils sont très intéressants. Donc, on est plus ou moins dans une forme de chronologie. Ça, c'est 2017. C'est ça, c'est une.
La première vignette est née en 2017-2018, donc c'est pas la première parution, mais en tout cas, c'est
oui, bien sûr,
le premier projet qui est né, en tout cas. Ouais.
Toi, tu as une date, hein, c'est
oui,
ça
2023, c'était noté, c'est ça
2022, c'est celui-ci.
2022, ok.
Donc ça, ça correspond peut-être aux choses que vous faisiez d'abord dans un premier temps, et ensuite sont venues plutôt. J'ai en main ici des fictions. Enfin, comment dire, il y a toujours une partie de texte chez vous, mais c'est davantage à la fin. J'ai ici Vermicelle, on l'appelait Vermicelle ainsi que Coquelicot, mais j'oublie des titres. Ça, c'est très récent. La Coquelicot, c'est la publication
la plus récente,
fin août, début septembre. Vous étiez en dédicace à Glénat sur la page de l'émission, la page du blog sur Spectaculaire. J'ai annoncé, il y a d'autres signatures à venir. Je crois qu'il y a Saint-Malo.
Oui.
Et puis, il y a aussi, avec différentes dates, tu les as sous les yeux ?
Je les ai sous les yeux, mais alors 27, 28 et 29 octobre, en effet, c'est au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Et puis après, il y a le 25 novembre, Festival BD dans l'Ain à Bellegarde.
Oui, il y a une date à Paris le 2 décembre, après il y aura Angoulême, après il y aura plein de dates qui s'ajoutent, je les mettrai sur mes réseaux sociaux aussi.
Et donc c'est surtout Coquelicot que vous dédicacez, mais il y a donc, là on est en train de faire un bond entre 2017, vos débuts, et puis 2023, cette publication de Coquelicot. Comment parler d'autres projets que vous avez menés ? Ils sont tous arrivés à un tirage papier, non ? C'est ça un peu, j'avais l'impression.
Oui, totalement, ouais. C'est arrivé. En fait, il y a pas mal de projets qui sont nés d'abord le souhait de m'entraîner, de m'exercer à quelque chose, et notamment Le Seuil, qui est la BD qui va paraître en février prochain. C'est une BD qui d'abord est née, pareil, sur les réseaux. J'avais envie de me prêter l'exercice d'une bande dessinée parce que je voyais des gens faire et je me disais, je détesterais travailler aussi longtemps sur un projet, mais j'ai envie d'essayer et de voir ce que ça donnera. Et donc, j'avais créé une page dédiée à ce projet où je dessinais une planche par semaine, sans pression comme ça. Et j'avais créé une page qui était complètement annexe à ma page principale pour voir si j'allais trouver un lectorat. Et en fait, rapidement, il y a pas mal de gens qui ont rejoint cette page. Je crois qu'elle est montée à 20 000 lecteurs. Donc, lecteurs qui lisaient que cette BD-là. Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et elle est effectivement parue suite à une campagne Ulule, donc en 2019. Et en fait, là, elle ressort dans une version, bah, du coup, qui est remise à neuf, où j'ai tout redessiné. Elle est magnifiquement colorisée par une amie à moi, et qui est artiste aussi, qui s'appelle Cyrielle Pisapia. Et en fait, elle a trouvé plein de nouvelles pages qui sont nées aussi de mon recul sur la situation, parce que c'est une histoire qui parle de violence conjugale. Et c'était une thématique qui, pour des raisons très personnelles, j'ai aucun problème à en parler, mais du coup, me touchait directement. Et je pense que quand j'ai commencé à faire cette BD, j'avais peut-être pas encore le recul nécessaire qui me permettait de pouvoir regarder mes personnages avec parfois plus de bienveillance, ou en tout cas de leur donner plus de force de caractère, de moins se laisser faire, d'avoir plus de féminisme dans les personnages féminins alentour qui s'insurgent de la situation dans laquelle est l'héroïne. Et ça m'a fait du bien de pouvoir reprendre cette histoire avec du coup toute cette maturité, en tout cas sur cette thématique qui était apparue sur ces dernières années entre la première version et la version qui va sortir.
Donc il y a des différences.
Oui, il y a une cinquantaine de pages supplémentaires, plein de textes qui ont changé et tout ça, donc ça sera vraiment un tout nouveau livre.
Là par exemple, c'est terminé vous avez fini le dessin, là pour l'instant c'est la production, c'est ça, la colorisation.
Il est tout terminé, je pense qu'il y a une micro-retouche, mais il est abouti, terminé, tout fini, parfait. On m'a dit qu'il était génial.
Et ça prend donc encore, on est fin octobre, la sortie est prévue pour février, c'est ça ?
C'est tellement long, c'est hyper long. Quand on rend une BD, on a trop envie de la voir sortir, et puis on se relance sur un nouveau projet, ce qui fait que quand notre BD sort, en fait on a la tête complètement prise par le projet dans lequel on est, et on n'arrive plus à s'emballer sur le fait qu'il y a cette sortie-là, donc toujours très particulier. Mais en tout cas, je serais trop contente quand elle va arriver.
Alors, en effet, quand on finit une création, j'imagine qu'on doit être content, on a envie tout de suite de la montrer.
Ah ouais.
C'est ça ?
Ouais, totalement. Surtout que moi j'ai un regard très dur sur ce que je fais, et en fait en général quand je rends quelque chose, j'en suis à peu près contente, et puis très rapidement je fais quelque chose de nouveau et je me dis ça c'est vachement mieux en fait, et donc du coup quand la BD sort je me dis mais attendez parce que là je fais quelque chose et vous verrez c'est encore mieux. Donc ouais, il y a toujours cette marge de progression qui fait que bah, on a toujours envie que ça soit le dernier projet qui soit entre les mains des lecteurs.
Donc là par exemple vous êtes en train de nous parler du Seuil qui arrive en février prochain, alors que vous devriez nous parler de Coquelicot qui est sorti il y a un mois, à peine plus, c'est ça?
Mais
qu'elle a terminé en 1983.
Voilà, c'est ça, il y a quelques temps. Et puis moi, j'étais dans une sorte de chronologie depuis 2017, donc en fait, si on reprend, on peut y arriver. Donc, et si on changeait d'angle, c'était les premières, comment les qualifier, des vignettes ou des dessins carrément,
oui,
que vous publiez, donc à, c'était Facebook déjà, Instagram aussi, et puis ensuite, mais il y a tout un tas de j'ai vu d'œuvres également disponibles à la bibliothèque. Il y a aussi Maëlle veut dire non, c'est ça,
oui,
je crois.
Oui, c'est mon album jeunesse, je l'aime trop, c'est moi qui l'ai écrit, je suis trop contente.
Et ça, c'est très tôt, quoi, que 2018-19, c'est ça, c'est...
Oh non, ça date de l'année dernière.
Encore seulement. Plus récent.
Ouais. Je sais même plus dans quel ordre j'ai fait ces livres. Mais celui-ci, j'en suis fière parce que c'est un album jeunesse et je trouve que c'est encore plus dur d'écrire pour les enfants que d'écrire pour les adultes parce qu'il faut prendre encore plus de soin dans les mots qu'on va utiliser. Et même si c'est un album jeunesse et que ça parle d'une petite fille à l'école et tout ça, en fait, ça parle de consentement, ça parle d'apprendre à dire non aux autres pour se dire oui à soi. Et ça parle aussi de comment se comportent parfois les petites filles pour être sûres d'être bien sages, d'être bien gentilles, de ne pas déplaire et qui peuvent croire parfois que quand elles rendent service, c'est comme ça qu'elles se font aimer. Donc en fait, ça parle comme de sujets hyper importants parce que ça vient contacter aussi toutes les thématiques autour du consentement qui arrivent plus tard dans les rapports qu'elles peuvent avoir plus tard avec des hommes. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper précieux les mots qu'on va utiliser pour faire passer des messages, mais tout en ayant un contenu distrayant pour les petits, quoi.
Il y avait encore d'autres titres aussi, mais j'en prie. Est-ce qu'on égrène donc votre bibliographie ou est-ce qu'on évoque un peu Coquelicot ou Vermicelle? Vermicelle, je crois, précède. Oui, bah forcément, puisque Coquelicot est la dernière sortie. il y avait aussi autre chose encore, je crois, un autre titre. Je ne sais pas. Ou voulez-vous parler un peu de Coquelicot, Fanny Vella?
On peut parler de Vermicelle et de Coquelicot totalement.
En même temps.
Bah oui, en fait, finalement. Et Maëlle n'ose pas dire non, donc mon album jeunesse.
Ce sont trois prénoms. Il y a Émilie dans Coquelicot et dans Vermicelle, on l'appelait Vermicelle. C'est son prénom.
Et en fait, Vermicelle. Émilie, donc dans Coquelicot, Maëlle, dont Maëlle n'ose pas dire non, et Camille dans Le Seuil, en fait, ça pourrait être un seul et même personnage qui se trouve être moi. Égocentrisme. Non, en fait, j'avais envie de pouvoir. Moi, j'ai fait une grande thérapie depuis la naissance de ma fille. Et en fait, j'ai trouvé ça fascinant d'apprendre à tirer les ficelles et comprendre comment on se construit en tant qu'adulte avec ce qu'on a acquis enfant. Et les traumatismes par lesquels on est passé, les rencontres qu'on a faites, les amitiés, les rapports avec la famille. Et moi, ça m'a tellement fascinée que je me suis dit, je trouve que ce travail, cette introspection-là, tout le monde devrait la faire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir placer. Donc, c'est un seul personnage, on va dire, mais qui se trouve dans plein de livres différents.
Avec des têtes différentes. Hein. Émilie ne ressemble pas du tout à
non,
Camille, pas
non
plus à Vermicelle.
Non,
et des âges différents ou...
Et bien, des âges. Après, j'aime bien quand même, sur Vermicelle et Coquelicot, c'est des personnages qu'on suit sur plusieurs années. On les suit sur deux décennies, les deux. Et en fait, j'avais besoin de mettre d'autres personnages que moi. D'ailleurs, même l'entourage familial de mes personnages n'est pas mon entourage familial parce que j'avais besoin de trouver aussi une forme d'empathie pour ces personnages, et parfois on est plus dur avec soi-même qu'on l'est avec ces personnages, et j'avais envie de poser un autre regard sur elle que je pouvais poser sur moi parce que j'attendais plus de moi. Avec elle, j'avais envie d'être plus douce et de me dire vas-y, t'inquiète ma belle, prends ton temps, ça va bien se passer.
C'est très schizophrénique tout ça.
Mais parce que je me détache totalement. En fait, j'ai vraiment un truc, c'est ce que je disais tout à l'heure à Christophe, j'ai très peu de mal à parler des choses un peu difficiles qui ont emprunté mon chemin, le chemin de ma vie, parce qu'en fait, j'arrive à regarder ça. Moi, j'ai traité tout ça, tout va très bien. Donc je regarde ça avec un œil qui juste vient m'apprendre pourquoi aujourd'hui j'aurais moins de patience avec tel comportement, pourquoi telle chose, je peux pas, je me laisserai plus marcher sur les pieds de cette façon-là. Ça m'intéresse et ça m'a vraiment construit. Donc ces personnages-là, on les suit pas dans des trucs catastrophiques où on se dit oh là, mais elles s'enfoncent dans un truc horrible. En fait, on les regarde s'en sortir et trouver leur résilience à travers plein de trucs. Donc dans Vermicelle, ça parle de l'imagination, la force de l'imagination qui permet à cette petite fille qui comprend pas tout ce qui lui arrive, de s'extraire un peu aux difficultés de relation qu'elle a avec sa famille. Et puis dans Coquelicot, ça va être les amitiés. Et puis en fait, la force de ces personnages, de vraiment, elles ont un souhait, c'est s'en sortir à tout prix.
Il y a toujours cette histoire de recettes en fait.
Et oui, toujours la recette. Mais elles sont loin d'être parfaites et c'est ni les personnages ni les recettes. Mais pour le coup, ça vient juste parler de la force en fait que les enfants ont en eux aussi pour trouver cette résilience là, quoi.
Je vous écoute parler. Moi, les mots me manquent. C'est moi, j'ai eu un réel plaisir à lire ces différentes œuvres. Alors, je n'ai pas encore lu Vermicelle. J'ai redouté une seconde, Fanny, que vous me divulgachiez ce qui peut se produire. Non, mais il n'y a pas de problème. Je viens de l'acquérir parce que je l'ai prise auditeur auditrice ce matin même. Les couleurs aussi, la palette graphique est très très différente de celle de Coquelicot. Et c'est ce que vous me disiez. Les couvertures aussi sont très nettes. Mais autant pour Coquelicot, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Là, pour Vermicelle, c'est une palette de bleu, c'est ça, du bleu foncé, du bleu clair, et puis les yeux de Vermicelle sont magnifiques. Elle a des yeux formidables. Est-ce qu'on écouterait Mathilda après avoir parlé de Maël, d'Émilie, de Camille, ce sera à venir.
Oh, si je peux dire
de Vermicelle
un truc
aussi, mais bien sûr, bien sûr.
Finalement, c'est parfait qu'elle arrive à ce moment-là, Mathilda, parce que pour les personnes un peu plus anglophones que d'autres, si on écoute les paroles, je trouve que ça c'est vraiment, ça transperce à travers les personnages que j'ai essayé d'illustrer dans mes BD. Donc, écoutons et comprenons les paroles.
Il n'est pas question d'effet Mathilda, là, c'est encore autre chose. Là. L'effet Mathilda, c'est les femmes qui se font piquer des idées par un.
Ah ouais, je ne connais pas ça.
Ah si, ça existe.
Ah, j'adore.
Ça vient de le livre de Roald Dahl, je crois. L'effet Mathilda, ben, on va checker ça sur Internet éventuellement.
Christophe est un puits de culture, un puits sans fond de culture.
Mais non, mais on connaît ça. On écoute Mathilda, et puis auditeur auditrice, on va tout doucement arriver vers la chronique de Francis. J'ai perdu le générique.
31.
Je n'ai pas le générique ici. Ouais, mais j'ai pas le générique de Ouassouloudon.
Ou Moussangaré.
On va essayer de bricoler quelque chose, auditeur auditrice. Écoutons Mathilda d'Harry Styles, et nous continuons. Spectaculaire émission 309. Nous sommes vraiment en très très bonne compagnie, et c'est super.
Time throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry, no.
Merci beaucoup Fanny Vella, c'est une belle programmation musicale, ce sont vraiment des titres très bien. Commencer Elton John c'était super, Arcade Fire c'était très bon ensuite, et merci beaucoup Harry Styles, ce titre Mathilda c'était très beau, très bien. La chronique de Francis va arriver, mais nous avons encore 5 petites minutes d'ici 14h50 pour évoquer bien Fanny Vella, VE2LA, auditeur auditrice si vous souhaitez retrouver son nom sur les réseaux, FA2NY, VE2LA, qu'est-ce que nous pourrions, de quoi pourrions-nous parler? Vous avez une actualité sur concrètement là en octobre sur le Inktober sur Instagram, mais il y a aussi d'autres publications qui vont arriver, qui sont arrivées. C'est vraiment Coquelicot, c'était la plus récente en 2023. Il n'y en a pas eu une début 2023, non, janvier, février. Vous n'avez pas eu Vermicelle, c'était plutôt 22, c'est ça? C'était
Vermicelle, c'était même 21. Ouais,
vous avez raison. 2021. J'ai achevé d'imprimer en décembre 21. Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que j'ai une grosse cadence et là encore plus cette année. Je 2024 s'annonce. Ça va être compliqué pour les gens qui aiment bien acheter mes livres. De suivre parce que là il va y en avoir quasiment un par mois tout le début de l'année.
Peut-être
donc
on pourrait un petit mot sur les éditions Le Duc.
Ah oui,
je crois
super.
Que c'est.
Ouais, c'est
comment les qualifier? C'est une équipe de femmes surtout, mais bon, enfin.
Eh ben oui, c'est vrai, c'est principalement. Mais alors c'est un hasard parce qu'ils font pas exprès, mais pour le coup c'est une équipe de femmes et c'est vrai qu'il s'est emparé. En tout cas, la collection elle est récente, elle est sortie en 2021 et en fait ils ont à cœur de ne pas sortir trop de bandes dessinées par an. Donc du coup, ils accompagnent bien chaque BD sur la durée de la création, mais aussi sur sa sortie pour la mettre en avant. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir aller dans des gros festivals pour représenter ces BD-là. Et ils aiment pouvoir aborder des thèmes un petit peu de société, des récits un petit peu de vie et puis de travail sur soi.
Postpartum, c'est également Le Duc, je oui. N'avais pas constaté, je n'avais pas vu ça.
C'est vrai. Bah, du coup, j'avais déjà travaillé avec eux pour Vermicelle et en fait, du coup, ils ont pensé à moi pour illustrer le livre de Régène Hérault. Alors, il y a quelques illustrations qui sont assez difficiles parfois, parce qu'elle vient d'évoquer des moments un peu difficiles du postpartum.
Ce sont des témoignages, c'est ça, on peut oui. indiquer, ce sont des paroles de mère pour en finir avec les tabous, c'est ce qui est écrit sur la couverture. Oui. Donc Régène Hérault assure la plupart des textes, enfin disons non, elle a plutôt...
elle a recueilli les témoignages. Recueilli les paroles. Les a,
oui. Illustration de Fanny Vella, vous en faites quoi, une dizaine, c'est ça je crois?
Je crois qu'il y en a 14 ou 15,
Et donc vous étiez en train de dire, je vous ai coupé, c'est que, enfin voilà, c'était un projet qu'on vous a soumis et vous avez bien apprécié ça.
Ah, j'adore illustrer les textes d'autres personnes et d'ailleurs j'illustre un album jeunesse qui sortira en janvier, qui va s'appeler Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle, donc ça parle clairement de patriarcat et de charge mentale.
Ah bon ?
Pour les enfants. Et je ne l'ai pas écrit, c'est deux auteurs que j'adore qui s'appellent Thomas Piet et Ophélie Sellier et c'est brillant et drôle et je me suis amusée sur les illustrations.
Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle. Donc ce sont surtout des textes, c'est ça? Et vous illustrez avec des dessins?
Vraiment, album jeunesse, petit texte, grosse illustration, et voilà, pour les toutes petites mains des petits-enfants, pour qu'on leur apprenne un petit peu la répartition des tâches.
Y a-t-il d'autres publications à venir aussi en deuxième semestre 2024 peut-être, c'est ça? Ou à l'été ou c'est
Des choses qui oui. sont en construction.
Ah, d'accord.
Ah si, j'ai participé à un recueil, une grande BD avec 19 artistes, on parle d'écologie, donc encore une belle thématique. Et ça va s'appeler... Ah non, je peux pas le dire ça encore. Mais ça va être vraiment très très chouette. Je les ai pas lu les BD des autres, mais je suis sûre que ça va être super.
Donc, vous constatez, auditeur auditrice, qu'il y a beaucoup d'œuvres. Enfin, voilà, j'avais annoncé en début d'émission que Fanny Vella parlerait de son œuvre. Je pense qu'on a donc compris les thématiques de ses œuvres. Là, on bloque. Là. Il y a beaucoup de titres, beaucoup de choses. Et c'est donc divers. Vous indiquez album jeunesse, des choses pour. Mais quoi, quand, une fois passé vraiment là, les petites mains dont vous parliez à l'instant, vos œuvres sont pour tout le monde. Quoi. C'est encore mieux que Spirou. C'est pas peut-être à 77 ans, ce serait de quoi? De 3 à 103 ans, c'est ça?
Il y a quand même des petites. Il y a des petites mises en garde. Ah oui, non, et sur
vous dites,
et
si on changeait d'angle, a priori, c'était quand même plutôt publication adulte, mais vous
pour
dites que les enfants lisent un peu aussi.
Ouais, c'est très drôle, puis de toute façon, il n'y a rien de choquant dedans, enfin, tout est fin, très, très subtil et fin. Non, par contre, Coquelicot et Vermicelle, il y a des thématiques beaucoup plus lourdes, et il y a même des mises en garde au début de Coquelicot pour les spectateurs, n'importe quoi, les lecteurs et les lectrices un peu plus sensibles à certaines thématiques.
Je ne l'ai pas vu. En revanche, ce que j'ai bien constaté, c'est à la toute... avertissement lecteur. Cet ouvrage aborde des sujets difficiles. Pour en savoir plus, consultez la liste des thèmes, page 123. Et je les ai vus, ces thèmes, effectivement.
C'est pour les gens qui ne veulent pas se faire spoiler. Ils ne sont pas obligés de regarder.
Les thèmes abordés, automutilation, dysmorphophobie, la dépression, malnutrition et puis également viol.
Mais il est quand même très lumineux, ce livre. Hein.
Ah, mais oui. Ah non, les couleurs sont formidables. C'est... Ah oui, excuse-moi, Francis, je t'avais laissé œuvrer. Donc es-tu prêt? Moi, j'ai 14h48. On peut peut-être anticiper un peu la chronique, hein, si tout est prêt.
Tout est prêt.
Fanny, la fin d'émission, je ferai quelques annonces. J'en ai peu. Il y a un peu de relâche parce que ce sont les vacances. Quoique pas tant relâche que ça. Il y a des festivals actuellement. Le festival, on recevait la semaine dernière Sens Interdit. Il y a aussi le festival Lumière qui bat son plein. Donc voilà, quelques petites annonces. Mais écoute, allez, 14h49, si tout est calé, Francis, je te laisse œuvrer, je t'en prie.
Un cri que personne n'entend n'a jamais retenti. Nous sommes envahis jour après jour d'informations souvent violentes que traverse notre époque. Et paradoxalement, même si ces informations nous touchent, on ne les entend pas toujours à leur juste valeur. Les guerres sont loin de nous, elles nous choquent, nous envahissent nos esprits, mais elles demeurent éloignées. Nous entendons ces nombreuses tragédies nourrir notre quotidien sans vraiment les écouter. Tommy Vieringa, je ne sais pas si ça se dit comme ça, se sent concerné, bouleversé et nous fait traverser le drame de Murat, un jeune Marocain qui projette un Eldorado à travers cette fuite vers le nord. Chronique presque littéraire, l'égoïste se partage, hashtag 48, la mort de Murat Idrissi de Tommy Vieringa. Un cri que personne n'entend n'a jamais retenti. Comment mieux entendre et comprendre la souffrance d'un homme qu'à travers son histoire intime? C'est ça le talent d'un écrivain, être capable de créer de l'intime, de l'anecdotique, de l'intériorité à travers un récit. Ilham et Touraya sont en vacances au Maroc, leur pays d'origine. Alors qu'elles profitent de leur séjour à Rabat, elles croisent le chemin de Salé, qui joue au sympathique guide touristique jusqu'à les convaincre de faire passer le jeune Murat en Espagne en le cachant dans leur coffre de voiture lors de leur retour aux Pays-Bas. Et c'est bien là que tout démarre. Ils étaient entrés dans le bidonville, les roseaux délimitaient une zone intermédiaire, le passage entre le monde des nantis et celui des démunis. Qu'est-ce qui pousse un être humain à tout quitter? Sa famille, sa vie, son pays, ses amis, la projection d'une vie meilleure peut-être, le rêve de réussite pour sa mère, le rêve de pouvoir aider ses proches une fois arrivé à destination. Soudain, elle comprend son imitation, ses efforts acharnés. Il est devenu la parfaite illustration du fils d'immigré intégré. Il va les battre sur leur propre terrain et deviendra plus néerlandais que les néerlandais. Ils sont nés et ont grandi aux Pays-Bas, mais malgré leur zèle et leur ambition, ils ne seront jamais rien de plus que des Marocains. Tommy Vieringa met en perspective ce miroir aux alouettes à travers Ilham et Touraya, arrivées aux Pays-Bas lorsqu'elles étaient encore des jeunes filles et qui aujourd'hui se retrouvent avec un travail alimentaire et survivent dans un pays dans lequel elles nourrissent l'espoir de s'intégrer. Ilham a honte pour elles, pour leur apparence chaotique, leur africanité. Elles paraissent tellement peu à leur place sur leur continent où elles viennent d'entrer. C'est tout l'intérêt de ce récit, mettre en perspective un rêve durement atteignable à travers ses destins croisés, celui qui le démarre et celle qui le vivent aujourd'hui, au jour le jour. Très tôt, Touraya avait méprisé son père, elle le trouvait aussi dur que bête. Elle avait hérité de son premier trait de caractère, il savait endurer. Il supportait de récurer les cales des bateaux dans le port et de faire face en rentrant chez lui à une famille de 6 enfants et une femme qui dépérissait. Son père lui avait aussi supporté les années de la faim dans le Rif. Ce road movie très réussi qui traverse une Espagne touristique, riche et caniculaire, nous rappelle un peu le cinéma des frères Cohen. Haletant certes, mais rempli de profondeur à travers des attitudes furtives, des anecdotes et des situations cocasses. Bref, le récit de la migration de ces derniers temps. La mort de Murat Idrissi de Tommy Vieringa, publié chez Stock.
J'avais coupé nos micros. Africanité, africanitude, c'est très bien avec ce générique de
Moussangaré. Oui, complètement, c'est pas fait exprès.
Ça me manquait tes chroniques, Francis, ça me manquait. Elles sont écrites, mais elles sont ciselées. Comment c'est...
Merci.
Elles sont bien. Tu reviendras en novembre, hein. Tu fais pas faux bon en novembre. J'ai coupé également, je crois, Fanny. Si, Fanny, on l'a bien, oui.
Je disais, il faut le réinviter, c'est super.
Ah mais oui, moi je demande à ce qu'il soit régulièrement avec nous, mais... Il est occupé, il est occupé. Fin d'émission, il nous reste encore quoi, une petite dizaine de minutes, hein, à peine quelques annonces. Et puis Fanny, ici, il y a peut-être encore quelques petites choses à évoquer. La Inktober, moi j'y tiens un petit peu, c'est votre actualité, ben, elle se termine, on est le 23 aujourd'hui, c'est ça? J'ai annoncé 18, n'importe quoi, on est 18, il reste encore 12 jours de ces dessins à faire. Vous vous y tenez?
Encore 12 jours.
À part jour. Quelques annonces pour cette fin d'émission. De la musique tout d'abord, éventuellement, pour commencer, opéra. La femme sans ombre a commencé. Die Frau ohne Schatten, un opéra de Richard Strauss. Il a commencé le mardi hier, c'était le 22 octobre. N'importe quoi, le 17 octobre. Ça continue jusqu'au mardi 31 octobre. Attention, c'est un bel opéra. Il y en a pour plus de 3 heures, près de 4 heures, avec 2 entr'actes. Mais je suis en train de l'écouter. Je ne le connaissais pas il y a encore cela, quoi, un mois. C'est beau, c'est bien, il y a de beaux airs, il y a de beaux moments. Et je ne pourrais pas en dire davantage parce que je ne connais pas encore tout à fait le livret. Il est question d'empereur, d'impératrice, de différentes choses. C'est à l'Opéra de Lyon. À l'auditorium, j'ai entendu tout à l'heure Gilles annoncer différents concerts à venir. Moi, je vais parler des Tinder Sticks. Peut-être connais-tu?
Oh, bah quand même.
Francis, les Tinder Sticks. Oui. Ils seront le jeudi 2 novembre sur scène avec, je crois que c'est un concert particulier, il me semble que seront projetés des extraits de films de quel cinéaste avec. Quels cinéastes sont-ils? Bah, c'est à l'auditorium, mais quels sont surtout quelle est la réalisatrice dont ils ont pour les films de laquelle ils ont fait beaucoup de bandes originales? C'est Claire Denis avec. Ah, okay. C'était quoi l'histoire de vampires, c'est ça, je crois, ou non, des cannibales. Là, c'était fin des années 90, c'était absolument terrible. Mais la musique lancinante de Stuart Staples, je crois que c'est lui, le leader des Tinder Sticks, c'est absolument génial. Jeudi 2 novembre, il y aura eu un peu avant Dracula le 30 octobre, lundi 30, et puis Carnaval des animaux le mercredi 25 octobre, parce que Gilles le disait, Festival Lumière. Et d'ailleurs, autre annonce alors, pour ce qui est de la musique. Alors, il y a Sliding World aussi, propose une expérience particulière le samedi 25 novembre. Peut-être en parlerons-nous le mercredi 22 auparavant, ou peut-être que j'en ferai une annonce plus précise dans une autre émission, mais c'est une écoute au casque, quelque chose d'un peu mystérieux. Une autre chose un peu mystérieuse, c'est pour du théâtre aussi, festival plutôt de manière générale. 3 festivals sont actuellement à Lyon. Sens Interdit a commencé la semaine dernière. Sens Interdit, nous recevions Patrick Penaud, le directeur du festival. C'est jusqu'au samedi 28 octobre. Différents lieux à Lyon, différents type de pièces, ce sont des choses. Je vous invite à réécouter l'émission 308, auditeur auditrice. Festival Lumière, il a commencé, il se termine, lui, il dure une petite semaine, il se termine ce dimanche 22 octobre. Avec différents films sont projetés à Lyon, le prix Lumière sera remis à Wim Wenders, je crois que c'est remis le samedi, je sais même plus. Je ne m'intéresse pas assez au Festival Lumière. Et enfin, un dernier festival Léviathan, festival gastronomique, très, très étrange, autour d'une œuvre, une œuvre d'art, et puis les questions de faire voyager ses sens.
Et il y aura à manger du coup.
Oui, il y a à manger aussi. Ouais, et cool. Le lieu où ça se tient, c'est dans le premier arrondissement, on n'en sait pas plus. Pour savoir, il faut réserver une place, il faut réserver ses billets. Et donc, lorsqu'on reçoit la confirmation, on sait où ça se tient.
Ça me rappelle les rêves partis dans les années 90.
C'est avec des chefs étoilés qui préparent les repas. Donc, ça peut être très intéressant. J'en dirais volontiers davantage, mais je n'ai pas. Il n'y a plus assez d'éléments maintenant et ni de temps. Des expositions ont lieu aussi. Exposition aux archives se trouve toujours Soigner, Accueillir, Guérir. À la BML, à la bibliothèque de Lapardieu, l'exposition Willem a commencé. Et puis Tomaselli, nous recevions Julia, à défaut de Monsieur Tomaselli lui-même, c'était à la fin septembre dernière. Nous recevions Julia pour nous parler de la galerie Tomaselli qui termine l'exposition le samedi 28 octobre. Et il y aura un autre accrochage arrivé plus tard aux Confluences. Bien, le temps que je cherche le nom de l'exposition parce que j'avais.
Mais j'apprends que tu fais des émissions quand je suis pas là.
Non, mais
comment c'est possible ça? Je suis vraiment vexé.
Je vais te couper ton micro là.
Non, juste parler d'un. J'ai l'impression que ça marche pas très bien mon micro. Parler d'un festival qui s'appelle Eclipse, festival pour l'égalité des genres dans la musique, qui est organisé par le collectif lyonnais Les Canutes. Donc, qui se déroule le 25 novembre à l'épicerie moderne, où il y a plein de rencontres et puis des DJ sets et des concerts. Prix conscient. 10 euros minimum, prix moyen 15 euros et 20 euros pour le prix de soutien. Voilà, le 25 novembre à l'épicerie moderne, Eclipse Festival, Eclipse, toutes les infos sont sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram et plein d'autres choses.
Et bien finalement, Confluence, je ne retrouve pas les actualités, mais on recevra peut-être un commissaire d'exposition de Confluence pour parler davantage de leur programmation. Pour achever, la prochaine émission, nous, ce sera le mercredi 8 novembre. On va faire un peu relâche avec Aude Charolais pour parler de la pièce Demain, je m'enfuirai. Je vous laisse deviner, Fanny Vella, de quoi il peut être question dans Demain, je m'en fuirai, une thématique qui va être autour des...
Violences conjugales.
C'est pas du jeu, vous savez tout. 14h58, je vois le blues des canuts qui est prêt, mais on a peut-être encore un petit mot Inktober. Non, c'est difficile.
La consigne est trop... Non, c'est super. Mais... Inktober, ça existe depuis
c'est exigeant.
Très, très, très longtemps. Et en fait, c'est un exercice auquel se prêtent les artistes qui le souhaitent. C'est, il y a une liste de thèmes qui est donnée. Le but, c'est de dessiner un dessin par jour en respectant ou la liste officielle ou une liste qu'on se crée. Le but, c'est vraiment dessiner, lâcher prise. Et moi, j'ai décidé de le faire en rendant hommage à d'autres artistes et je copie leurs œuvres, mais je les cite. Donc voilà, c'est un bon exercice pour voir un petit peu ce que les autres font et ça pousse à prendre le crayon tous les jours et pas que pour les contrats qu'on réalise.
Fanny, on va se dire au revoir. Alors une seconde, j'annonce les émissions à venir. Oui, Francis, a priori, je sais quelle émission aura lieu à 21h. À 15h, le blues des canuts est prêt. Le blues des canuts commence dans quelques instants. À 18h, Mayday. À 19h, Canu Info. 20h, Idées Noires, émission de l'UCL. 21h, a priori, ce sera la bande-son de nos révoltes. Ou pas d'émission, parce qu'actuellement il est un peu relâche pour à l'Est l'Éden. 22h, Boulimix, émission Funky Stéry, elle aura bien lieu. On va se quitter avec
les Beatles,
on s'était dit, ben c'est très bien. Auditeur, auditrice, que je peux vous dire, hein, en fin d'émission je le fais régulièrement, Fanny Vella, nous ne nous sommes pas tout dit. Mais je vous propose, on va regarder nos agendas, peut-être pourriez-vous revenir en janvier, février, mars prochain pour nous évoquer, ou peut-être juin, fin de saison,
mais
parce qu'il y aura d'autres projets aussi. Et vraiment, là, votre présence pour marquer une première salle d'émissions, on a fait quoi, 4-5 émissions depuis la reprise après les vacances estivales. Ouais, t'as raison, j'aime bien me onnoyer ou me nous noyer. Donc c'est très bien de finir de cette belle manière parce qu'on fait pause les mercredis 23 octobre, non 25, je sais plus, si c'est un mercredi 25 et mercredi 1er novembre. Merci Fanny, c'était vraiment un réel plaisir. Auditeur, auditrice, je vous invite à retrouver ces œuvres publiées aux éditions Le Duc qui sont disponibles dans toutes les librairies lyonnaises, un peu partout. Elles seront en signature si vous souhaitez aller à Saint-Malo, ça peut être très bien à la fin octobre. On écoute les Beatles. Pourquoi ce titre peut-être? Oui, dernière question. Pourquoi? Si vous l'aimez bien.
Parce que c'est les meilleurs.
Pas les Rolling Stones.
Non, les Beatles.
Les Beatles, bon. C'est calé Francis?
C'est calé.
Eh bien Francis, on se voit quoi? Le 22 novembre peut-être?
2028.
C'est pas sympa. Portez-vous bien, auditeur, auditrice.